pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Ah, j'adore cette phrase de Renaud. Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, je vous propose de réécouter les bons moments de l'émission. Ils étaient tous bons, hein. Mais voilà, j'ai eu envie de réentendre cela et notamment l'interview de Sylvain Tesson. Il publiait La Panthère des Neiges chez Gallimard au mois d'octobre. Depuis, il a décroché le prix Renaudot et un énorme succès de librairie. Sylvain Tesson est insaisissable, comme vous savez, il est toujours ailleurs. Et donc, pour être sûr de l'avoir, nous étions allés chez lui pour le rencontrer. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
C'est à chaque fois un nouveau voyage. Il nous a emmenés en Sibérie déjà, en Mongolie à moto ou sur les sentiers perdus de la campagne française, toujours avec poésie et aussi un peu d'humour. Cette fois, ce n'est pas tout à fait lui qui nous guide, enfin pas seulement lui. Nous suivons la piste d'une panthère. Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour.
Vous signez donc La Panthère des Neiges chez Gallimard. Pourquoi avez-vous décidé de partir sur ces traces? Comment ça s'est passé?
J'ai été invité par un photographe animalier qui s'appelle Vincent Meunier, qui est un artiste, qui est un photographe, et qui est un connaisseur des bêtes, et qui voue sa vie depuis maintenant une trentaine d'années à photographier, à approcher et à photographier les animaux les plus difficiles à rencontrer. Le loup, l'ours, le lynx, et...
Le blaireau,
absolument. Il m'a invité d'ailleurs un jour à aller... rencontrer des blaireaux quelque part au bord de la Moselle.
Le livre commence comme ça.
Oui, il ne savait pas que mon nom, Tesson, en vieux français, ça veut dire le blaireau. Mais l'animal, pas l'expression désagréable, ni l'instrument de rasage, enfin qu'on n'utilise plus. Et il m'a invité à venir au Tibet, le rejoindre, lors d'une de ses expéditions pour approcher la panthère des neiges, animal que je croyais disparu.
Oui, mais déjà, dans le chapitre introductif, quand vous observez, quand vous attendez plutôt les blaireaux, vous nous expliquez que quand même, être allongé comme ça, attendre sans arrêt, avec votre envie de bouger partout, c'est très compliqué. Et vous décidez quand même de l'accompagner, attendre encore plus longtemps, mais dans le froid au Tibet.
Quand il m'a invité à rencontrer, à observer des blaireaux dans la forêt... C'était pour moi une expérience nouvelle. Je me disais que ça allait durer quelques heures. Et j'y allais un peu à reculons parce que c'était la contradiction exacte de tout ce que j'avais vécu jusqu'alors. Moi, je vivais une vie de voyageur, d'aventurier. Je passais ma vie à courir les routes, à changer de décor, à traverser la géographie sans trop regarder ce qu'il y avait autour de moi. Je demandais au mouvement et à l'imprévu de m'apporter ma source de curiosité et d'inspiration. Et là, tout à coup, il fallait faire exactement l'inverse. C'est-à-dire attendre, se dissimuler, s'oublier, dans le silence, avec patience, pour espérer voir un animal qui peut-être n'apparaîtrait pas. Eh bien, j'ai découvert qu'en fait, j'aimais beaucoup ça.
Ben justement, oui, vous partez, mais c'est le principe. Effectivement, sans être sûr de la trouver, on peut se dire, en fait, quand on lit ces lignes, que c'est ça, en fait, être un vrai voyageur, que c'est le chemin qui compte, pas tellement le but, puis que c'est bien votre genre. Mais la phrase d'après, vous ajoutez, je n'étais pas de ce genre, moi je voulais voir la bête, même si, par correction, je n'avouais pas mes impatiences à Meunier, le photographe.
Oui, ça c'était au début. En fait, quand on vit l'affût, quand on passe des heures à attendre un animal, on finit quand même par se réformer et par tirer un enseignement de l'attente et par se rendre compte que le simple fait d'être en observation, de regarder ce qui se passe autour de soi, ça vous procure une joie. Et c'est très intéressant. Et on ne sait pas, au fond. On passe sa vie sans savoir qu'il se passe autour de nous beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Seulement, il faut attendre pour ça. Il faut regarder les yeux ouverts. Il faut se tenir aux aguets, il faut se tenir en haleine, il faut se tenir à l'affût, quoi.
Mais vous démontez aussi sans arrêt les clichés sur le voyageur et sur les voyages. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours en train d'être dans la flânerie du voyageur solitaire, très poétique tout le temps, etc. Parfois, vous dites, non, mais j'ai juste envie de m'amuser aussi, de bouger. J'ai pas envie de, vous n'avez pas envie de tout le temps, quoi. Vous êtes pas toujours dans. Vous démontez sans arrêt ce mythe du voyageur, quand même.
Oui, c'est-à-dire que moi j'aimais jusqu'alors l'effort physique. Je trouvais que le mouvement procure un accroissement de l'intensité de la vie. J'aimais aller jusqu'à l'épuisement sur les routes. Avec une certaine fantaisie, c'est-à-dire le nez au vent, sans très bien savoir ce que je voulais. La seule chose que je voulais, c'était avancer. Il fallait que le paysage défile. Et voilà que tout à coup, on me propose l'inverse. Et j'ai fini par m'apercevoir que si vous demandez au temps qui passe, de vous apporter des micro-nuances de changement dans votre environnement et le paysage que vous regardez, eh bien, au fond, ça a autant de valeur que si vous demandez la même chose au défilement de l'espace.
Vous expliquez aussi que vous prenez évidemment le RER pour rejoindre l'aéroport, mais avec votre veste arctique et vos bottes de l'armée chinoise. Et ça, j'y avais jamais pensé. Et vous partez toujours au bout du monde, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce départ quand même dans le RER. Est-ce qu'il y a des gens maintenant qui vous disent « Ah bah Sylvain Tesson, mais vous partez où avec votre accoutrement là ?»
Non, pas vraiment, mais ce jour-là, j'emmerdais tout le monde en fait, parce que c'était en pleine heure de pointe. C'était le RER qui m'amenait à Roissy. Et comme j'avais une surcharge de bagages, j'avais mis tous mes habits pour un séjour à 5000 mètres d'altitude sur moi pour décharger mes sacs. Et j'avais vraiment l'air des Dupont dans le Tintin d'Hergé qui se déguisent comme selon les coutumes du pays qu'ils vont visiter. Sauf que là, j'étais à Paris en 2020 et en 2019 et j'avais vraiment l'air d'être un extraterrestre, quoi. Et puis en plus, moi j'étais couvert pour supporter moins 40 et le RER est assez bien chauffé maintenant. Donc finalement, c'était la partie la plus difficile de ce voyage.
Et donc vous partez au Tibet, vous connaissiez déjà un peu, vous l'avez parcouru à vélo notamment, je crois. Mais c'est ce que j'aime bien quand je vous lis, c'est que vous ne vous extasiez pas devant tout. Quand vous arrivez, il y a pas mal de routes à faire et vous écrivez ceci. L'air sentait le métal, sa dureté n'invitait à rien, ni à la flânerie, ni au retour. Ça, c'est le privilège de ceux qui voyagent beaucoup quand même. Sans être blasé, c'est cette capacité à ne pas être ébobie devant tout ce qu'on voit parce que c'est loin et donc exotique.
Oui, mais c'est facile de ne pas être ébobie quand on voyage au Tibet parce que le Tibet, c'est une région très hostile et très dure. C'était le mois de février. Vous êtes propulsé directement à 4000 mètres d'altitude. Vous manquez d'air, il fait très froid et il faut s'imaginer un paysage qui est très lugubre. Ce sont des plateaux qui sont rabotés par le vent. Ça fait des millions d'années que les hivers sont terribles là-bas. Et si vous n'êtes pas très sensible à la géographie lugubre, stérile et désespérée, ben vous avez vraiment l'impression que vous vous demandez ce que vous faites là. Le Tibet n'est pas du tout un pays facile à l'œil, qui correspond à ce qu'on va chercher quand on se dit qu'on prend quelques temps pour un séjour agréable. Non, c'est très dur. C'est un territoire très dur. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est pratiqué par des nomades, d'une certaine manière, qui ne font que passer et qui se sont adaptés sublimement à la difficulté climatique et géologique.
On fait une petite pause, mais on reste au Tibet. On s'y retrouve dans un instant.
La voie est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre et chez Sylvain Tesson qui nous accueille pour parler de son nouveau livre La Panthère des Neiges chez Gallimard, à la poursuite de la Panthère des Neiges au Tibet, dans le froid, avec la patience que ça implique, parce que c'est très compliqué de trouver une Panthère des Neiges. On découvre à la fin si oui ou non vous en avez trouvé une ou pas, on va pas le dire tout de suite. Mais pour l'instant, vous êtes arrivé au Tibet et vous observez le paysage et le pays. Et surtout, la domination chinoise, pas par des installations militaires, par les infrastructures toutes neuves.
Une autorité, quand elle veut soumettre un peuple, elle n'a pas 36 solutions. Soit vous envoyez la troupe, et vous déployez la police, et vous faites régner la terreur. En général, c'est ce qui se passe dans un premier temps. Et puis, le deuxième chapitre de la domination, c'est ce que Lénine appelait l'électrification du pays, c'est-à-dire c'est l'aménagement du territoire. Vous construisez des routes, vous construisez des hôpitaux, vous construisez des écoles, et vous tuez par l'aménagement que vous faites, par le progrès que vous instillez dans le pays, le développement, l'aménagement, vous tuez les raisons de la rébellion. Parce que vous dites aux populations, mais de quoi vous plaignez-vous ? Regardez, nous sommes en train d'aménager votre pays et de vous développer. Et puis, il ne faut pas se leurrer, le centre de Pékin, quand ils aménagent le Tibet, derrière l'école et derrière l'hôpital, il y a toujours la caserne ou le poste de police.
Et vous citez Jack London, vous ne perdez jamais une occasion de citer Jack London, et vous dites « Quiconque nourrit un homme est son maître ».
Oui, c'est un petit livre de Jack London qui a été republié récemment dans une nouvelle traduction aux éditions du Sonneur. « Quiconque nourrit un homme est son maître », et ça exprime exactement cette modalité de la coercition. Ça veut dire que vous nourrissez, vous tendez la main, mais derrière, il y a l'arrière-pensée de la soumission.
Alors, en attendant de croiser une panthère, en attendant le bon vouloir des dieux, c'est-à-dire du hasard, dites-vous, vous observez les yaks, puisque le photographe que vous accompagnez est aussi là pour ça. Et hop, une digression sur le monde moderne et l'économie de la viande rouge. En fait, vous partez toujours loin, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de faire référence au monde civilisé. Tout vous y ramène sans arrêt. C'est malgré vous, ça ?
Bon, je ne sais pas, c'est peut-être une distorsion de l'esprit, c'est peut-être la manifestation d'un gâtisme précoce, mais voilà, moi je suis ainsi fait. Quand je vois quelque chose, d'abord je le décris, je le constate, parce que j'aime les mots, j'aime l'exercice qui consiste à peindre un décor, mais immédiatement il me vient une idée, alors elle est plus ou moins bienvenue. Elle est plus ou moins bien formulée, malheureusement plutôt mal que bien, mais enfin, je ne peux pas m'empêcher de voir une signification, un symbole dans les réalités qui se présentent devant moi.
Ou un opposé sur les chemins noirs, au fin fond de la campagne française, vous parliez du coup des villes aussi.
Oui, mais enfin, il me semble que c'est assez commun, ça. C'est simplement la digression, quoi. On voit le particulier, on pense à quelque chose de plus général, et moi je voyais ces yaks sauvages, qui était devant nous, parce que Vincent Munier, le photographe, est un passionné du monde sauvage, et pour lui, le yak sauvage est l'incarnation parfaite de ces animaux qui viennent des temps immémoriaux. C'était exactement les mêmes yaks qui étaient peints sur les cavernes préhistoriques. Et vous voyez, là, rien qu'en vous parlant des yaks que j'avais devant moi, eh bien, ça nous ramène aux cavernes préhistoriques. C'est un mouvement assez commun de l'esprit. On va un peu plus loin que la simple chose qu'on voit.
Je ne sais pas si c'est commun mais pour tout le monde, mais en tout cas, c'est commun chez les écrivains, ça c'est sûr. Les écrivains voyageurs en particulier, d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà voyagé sans ramener des notes et publier un livre derrière ?
Mais pas tellement, parce que moi, c'est un exercice que j'aime. Transformer les sensations que j'éprouve ou les quelques réflexions qui me traversent l'esprit en notations, ça me plaît. C'est une très belle alchimie. Vous mettez le monde en mots. Il y en a qui aiment prendre des photos, comme Vincent Meunier, il y en a qui aiment faire des films. Moi, j'aime convoquer les mots pour raconter ce que j'ai vécu.
Alors ensuite, il y a beaucoup d'attentes dans ce livre, évidemment, et vous comparez justement cette attente et la venue des bêtes, quand elles apparaissent, à des apparitions, précisément, mais au sens quasi religieux.
Oui, pour moi qui suis athée, j'ai eu des expériences d'ordre spirituel quand je voyais arriver ces bêtes. C'est pas simplement le décor qui s'anime avec une zoologie sympathique qui court dans les horizons, non. C'est tout à coup quelque chose, un animal que vous avez attendu avec beaucoup de patience, en souffrant modérément, mais il faisait froid, vous n'êtes pas très confortablement installé, et tout à coup une bête, sans que vous l'attendiez, semble jaillir du paysage. Vous la voyez pas venir, elle apparaît. Vous avez même l'impression que tout à coup, elle se dessine à l'endroit où votre œil se posait, mais ne la voyait pas. Et tout à coup, elle surgit, elle apparaît, elle se révèle, comme on dit dans la photographie, comme autrefois, quand, dans l'argentique, quand on développait une photo, on la mettait dans un bain révélateur. Eh bien, le monde est un bain révélateur, mais pour que les choses se révèlent, il faut de la patience.
Il y a une scène incroyable, donc je rappelle que vous êtes dans une cabane, vous êtes quatre, il fait moins 20 degrés, et puis tout à coup on entend des loups au loin. Bon, et votre ami photographe, il se trouve qu'il parle le loup, donc il se met à ululer, il hurle avec le langage des loups, et le loup lui répond. Et puis tout à coup, il y a le loup qui se dessine au loin, mais surtout qui court vers vous. Et là, vous flippez un peu quand même.
Oui, parce que Vincent Meunier hurle avec les loups. Enfin, il chante comme un loup. Il préfère dire chanter que hurler. Et d'abord, il réussissait à identifier combien il y avait de loups. Moi, je n'entendais que le même hurlement. Et il me dit, ils sont 8. Alors, c'est formidable parce qu'il réussissait à détecter le nombre de ses interlocuteurs. Et puis, il commence à entretenir une conversation avec le loup qui était assez long, on ne les voyait pas. Et tout à coup, l'un des loups est venu comme un ambassadeur vers notre position, alors que nous, on pensait être camouflés, mais visiblement, il voyait d'où... Il détectait le loup, d'où venait le chant de mon camarade, et il est arrivé vers nous, ce qui est une vision assez désagréable. Vous voyez un loup qui galope vers vous, et vous vous dites, il est peut-être temps d'opérer une retraite. Et puis, comme mon ami Vincent Meunier paraissait très tranquille...
Oui, vous dites, t'inquiète pas, il va s'arrêter 10 mètres avant.
Ça, c'est comme quand il y a des turbulences dans l'avion, alors vous regardez l'hôtesse de l'air, et puis si vous voyez qu'elle est calme et que ça lui fait rien, vous dites que c'est pas très grave. Mais c'était la même chose. Et effectivement, le loup s'est arrêté à une cinquantaine de mètres de nous. Il a dû détecter que c'était tout à fait bizarre qu'il ne voit pas un congénère, et il a pris la tangente et on l'a perdu dans les rochers.
Alors, la grande idée du livre, enfin, selon moi, évidemment, il y a la panthère, que vous finirez sans doute par observer, même si c'est compliqué à observer puisqu'elle se fond dans le paysage, la panthère des neiges, par définition. Mais la grande idée, c'est que pour trouver une panthère des neiges, il faut quitter le monde des hommes. Et qu'il y a une formule que j'oublie, mais je la résume, c'est que la nature se cache, finalement.
Oui, ça, la nature se cache, c'est une pensée c'est un fragment d'Héraclite, Héraclite d'Éphèse, qui est un philosophe grec présocratique. C'est une pensée, c'est une phrase qui est assez mystérieuse. La nature aime à se cacher. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais on comprend quand même que la vie, à un moment, qu'elle soit cellulaire ou multicellulaire, qu'elle soit très sophistiquée ou très modeste, qu'elle soit très grosse, très imposante, comme les mammifères marins, ou très petite, comme un insecte, la bête sauvage, cherche toujours la discrétion, le repli, la rétractation. La patrie des bêtes, c'est l'interstice, c'est la dissimulation, c'est le camouflage. Il y a très peu de bêtes qui sont dans l'ostentation, sauf quand elles sont dans leur période des amours, elles s'adressent les unes aux autres. Le paon fait la roue, la baleine chante, mais le reste du temps, les bêtes essayent de se cacher, et elles ont bien raison, surtout quand elles rencontrent les hommes.
Elle se cache aussi dans ce livre à découvrir, et sa recherche est aussi belle que sa découverte. Merci beaucoup Sylvain Tesson. Quel est le prochain voyage ?
Pour l'instant, je reviens du Tibet parce que je suis reparti la semaine dernière avec Vincent Meunier pour voir des panthères, et nous avons eu la chance de tomber nez à nez, c'est le cas de le dire, nez à museau, devant des ours du Tibet. C'est un animal que Vincent Meunier n'avait jamais vu lors d'une quinzaine de séjours au Tibet. C'était très saisissant et ça m'a confirmé qu'il n'y a rien de mieux que l'affût. À un moment, il faut s'arrêter et ouvrir les yeux.
Merci beaucoup Sylvain Tesson. Europe 1. Dans un instant, encore un roman. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter pour nous dire quel est votre grand livre, le roman que vous partagez, que vous offrez, qui est au centre de votre bibliothèque. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse livre@europe1.fr ou me contacter via Twitter. Aujourd'hui, c'est Lucie de Montrevaux dans le Maine-et-Loire qui va nous parler de Marche ou crève de Stephen King. A tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Caro.
De retour dans La Voix est libre, chaque semaine je vous demande quel livre a changé votre vie ou quel roman vous a marqué. Ça peut être un grand classique, un livre culte, un roman inconnu, tout me va. Cette semaine, c'est donc Lucie qui nous appelle de Montrevaux, dans le Maine-et-Loire, dans les Mauges. Bonjour Lucie.
Bonjour Nicolas.
Alors donc, Marche ou crève de Stephen King. Je vous le dis tout de suite, c'est aussi l'un de mes romans préférés. Pourquoi vous l'aimez, vous allez nous le dire tout de suite. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire du livre, le point de départ?
Le point de départ, c'est une épreuve sportive. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris au début, où le but du jeu, c'est de finir d'être celui qui va marcher le plus longtemps. Et il y a des règles. Il ne faut pas descendre sous les 6 km/h. Et en fait, on comprend assez vite que si on descend sous les 6 km/h, en fait, on se fait fusiller.
C'est
donc
ça.
En fait, celui qui gagne, c'est celui qui reste tout seul à la fin.
Exactement. Donc on est dans une société dystopique, il y a 100 coureurs, si on peut dire, mais ils doivent 100 marcheurs même. Il faut avoir 16 ans et on doit s'inscrire, on est choisi. Et puis une fois qu'on est choisi, on est 100 sur la ligne d'arrivée. À la fin, il n'y en aura qu'un, puisque les autres auront tous été tués, soit de fatigue, soit par un coup de mitraillette tiré par un des militaires qui surveille la course.
C'est ça, c'est très bien résumé.
Mais alors pourquoi, qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Parce que c'est quand même particulier comme point de départ.
En fait, ce qui m'a plu, à la base, je ne l'abordais pas forcément en me disant que ça allait me plaire, parce que enfin, le sujet ne m'intéressait pas particulièrement. Ce que j'ai trouvé super intéressant dans le livre, c'est l'angoisse qui monte au fur et à mesure et de voir l'évolution psychologique des personnages avec une espèce de folie qui se met en place dans chacun des marcheurs au fur et à mesure.
Oui, c'est ça, parce que on suit l'un des personnages qui est le héros, mais lui rencontre plein de gens pendant la marche. Il s'en fait des ennemis, des amis. Et ça, c'est très particulier, d'autant qu'on marche un peu avec lui. Est-ce que vous étiez fatigué, vous aussi, comme moi, en lisant ce livre ?
Alors non, au contraire, moi, je n'étais pas fatiguée. Je n'arrivais absolument pas à m'arrêter, en fait. C'est un livre qui me tenait éveillée. Et je pense que j'ai dû le lire très rapidement, en deux jours, parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Donc non, au contraire, plus eux fatigués et moins je fatiguée, moi, de mon côté. Mais c'est vrai, ce que vous disiez sur le petit groupe, on le sent bien. Il a son petit groupe, son petit noyau qui se forge au fur et à mesure et qui, pour lui, devient hyper important. Et je me souviens même qu'à un moment, il dit, en fait, ce qui va être dur, c'est quand il y en a un du cercle qui va partir, en fait, qui va mourir.
Et on n'a pas dit que la course est télévisée. C'est aussi un grand jeu télé qui est organisé. Et donc, il y a la gloire au bout du chemin. Enfin, la gloire, si on veut. Mais en tout cas, le survivant est d'abord célèbre et en plus richissime, parce qu'il est couvert d'or s'il gagne.
C'est ça. En fait, c'est ce qui motive finalement ces adolescents au début pour s'inscrire à la marche. C'est à la fois la célébrité et surtout l'argent, en fait.
Et ce qui est terrible, c'est que quand le héros prend le départ, sa maman l'emmène. Lui, sa maman pleure évidemment parce qu'elle sait que c'est très très risqué. Lui est très confiant et au premier pas, et donc c'est la première page du roman en fait, premier pas, il se dit mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Il comprend tout de suite que c'est quasiment impossible de gagner cette course.
Et en fait, moi, c'est aussi ce qui m'a tenu en haleine dans le livre, c'est de comprendre mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'inscrit en fait à cette course? Et finalement, on n'a jamais réellement la réponse à cette course, à cette question, parce que lui-même, en fait, il commence à se dire, mais il se la pose lui-même pendant toute la course également, en se disant c'était complètement idiot et c'est une énorme erreur, quoi.
On peut le voir aussi, alors sans tirer des trop grosses ficelles, mais comme une sorte de métaphore de plein de situations dans la vie, quand il faut s'accrocher, quand il faut y aller, quand il faut plonger, quand il faut... Voilà, est-ce que vous, parfois, dans la vie, vous pensez à Marche ou Crève et au héros de Marche ou Crève?
En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai lu ce livre quand j'étais en classe prépa, en train de passer mes concours et où j'avais l'impression que ma vie était horrible et qu'il fallait s'accrocher, etc. Et je l'ai lu à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si mon frère qui me l'avait passé, s'il y avait un lien. En tout cas, je l'ai lu en me disant, bon, en fait, ma vie, elle est super.
Merci beaucoup, Lucie. Marche ou crève, donc, de Stephen King. Merci beaucoup.
Europe 1.
Et si vous aussi, vous voulez partager le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez, écrivez-nous. Il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons toutes vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres. Nous partons visiter la bibliothèque de Dave, le chanteur. Et oui, à tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
La voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. En septembre dernier, Dave publiait un nouvel album, Souviens-toi d'aimer. Nous avions profité de l'occasion pour visiter sa bibliothèque. Bonjour Dave.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous.
Ah ben j'adore, si c'est pas parler de livres, venez quand vous voulez. Jusqu'à 10h le soir, après je dors.
Et il y en a plein des livres d'ailleurs, ça tombe bien. Et on est arrivé évidemment par le rez-de-chaussée, on est dans le 16e arrondissement de Paris. Et vous m'avez dit, non mais on va commencer par là-haut, il y a un auteur dont je veux absolument vous parler.
Voilà, parce que
donc,
je trouve qu'il est méconnu.
On y va.
Voilà, dans les chansons, il y a des gens méconnus après leur mort, comme je sais pas, Mabéco, Nougaro, très injuste. Et dans les écrivains français, je suis toujours surpris que les Français ne connaissent pas Paul d'Ivoire. Le prénom Paul, c'est-à-dire D'Ivoire. C'est un écrivain un contemporain de Jules Verne qui a écrit des livres extraordinaires qu'on peut trouver en livre de poche, parce que moi, je les ai dans la collection de l'époque.
Ouais, vous avez collection grand format de l'époque, grand format et rouge, un peu comme les Jules Verne, d'ailleurs,
pareil,
des éditions
Hetzel. Il y en a aussi, d'ailleurs, oui.
Alors, qu'est-ce que c'est, Paul d'Ivoire?
C'est des livres d'aventure, c'est des livres... presque pour ado, quoi, ou pour adolescent attardé, comme je suis. Ça m'énerve que les Français ne connaissent pas Paul Dubois, parce que c'est donc un contemporain de Jules Verne, avec le même style de livre. Et c'est des livres un peu d'adolescent ou d'adolescent éternel. Tiens, ça me fait penser sur mon album, j'ai dit « Adolescent étonné d'additionner tant d'années ».
C'est joli.
Je suis un adolescent étonné d'additionner tant d'années, vraiment.
Parce que vous êtes encore adolescent, au fond.
Ah ouais, je pense.
Vous le relisez, Paul Dubois?
J'ai un petit branleur, en quelque sorte.
Vous le relisez encore aujourd'hui, Paul Dubois?
J'ai relu, il n'y a pas longtemps, pas dans la version de ces grands livres, parce que là, tu te couches avec ça, tu ne tiens pas, quoi. Donc, ça existe en livre de poche.
Il y a le Sergent Simplet, les Semeurs de glace, Miss Mousquetaire.
C'est quoi, ça raconte quoi? C'est très connu. Alors, c'est un couple qui va se coucher au bord de l'eau, quelque part, en France, et puis ils entendent parler à côté d'un truc qui se ressemble très étrange, un kidnapping, etc. Ils vont suivre, et après ils se font prendre, ils se réveillent sur un bateau, et après ils se trouvent en Indochine. C'est un livre d'aventure, mais extraordinaire, extraordinaire. C'est sur 3 livres, et il faut vraiment, enfin bref, j'espère donner envie aux gens qui vous écoutent.
Vous l'avez découvert quand? Parce que c'est quand un truc de gamin,
j'avais ça. J'avais 15-16 ans, je pense.
Vous étiez déjà en France?
Non, mais c'était, je l'ai lu en hollandais.
Ah, vous l'avez lu en hollandais?
Ah oui, complètement, oui, oui.
Et vous lisez toujours en hollandais ou pas?
Très rarement. Je lis en fait en anglais et en français, et de temps en temps en hollandais, parce que, en fait, les livres, c'est des rencontres, vous le savez aussi bien que moi. C'est un ami qui va lire tel livre, etc. Et donc, ça peut être un ami hollandais. Donc, j'aime bien aussi être un peu au courant de ce qui se passe dans la littérature hollandaise, quoi. Mais par exemple, Dostoïevski, qui est un de mes écrivains, quand j'étais adolescent, qui fait partie de ceux qui m'ont fait un peu partir. Parce qu'il y a des gens qui vous donnent envie de voyager.
C'est à cause de Dostoïevski que vous avez tout quitté.
C'est plusieurs auteurs. Et il y avait le Jacques Kerouac, On the Road, sur la route en français, ouais, qui m'ont donné envie. Il y a un écrivain hollandais qu'on peut trouver en français, qui s'appelle C.S. Notenboom, qui a écrit un livre, Philippe et les autres. Et tout ça a fait que j'avais envie d'aller voir ailleurs, quoi. Donc Dostoïevski m'a plutôt fait faire des conneries à cause de Crimes et châtiments, parce que je me suis pris un peu par Raskolnikov et je voulais essayer des choses interdites. Par exemple, j'ai volé un billet dans le portefeuille de mon père, panique à la maison, tout le monde est accusé et je n'ai pas tenu bon. À un moment, j'ai aidé à le retrouver. Pourquoi? C'est moi qui l'ai volé, donc je l'ai retrouvé.
Est-ce qu'on l'a retrouvé?
Je l'ai retrouvé sur un canapé, entre 2 coussins, où je venais de le mettre. Donc.
Vous n'avez pas avoué le crime quand même?
Non, je suis bon, mais pas ce point. Bon, mais pas con quand même.
Sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Et qu'est-ce que c'est, tous ces livres-là?
Alors là, il y a quand même beaucoup de... Un grand partie de mes livres d'enfants sont au fond de la mer. Parce que les bateaux avec lesquels j'ai quitté... Moi, je suis parti en bateau. J'ai quitté les Pays-Bas en bateau. Et ce bateau, après, a continué sans moi. Et il est rentré dans un rocher, dans la mer Rouge. Et moi, je revenais régulièrement. J'avais quitté le bateau parce que le garçon qui j'ai quitté la Hollande, j'en étais éperdument amoureux, mais comme il n'était pas gay, comme on dit aujourd'hui, donc c'était difficile quand même dans la même cabine. À un moment, j'en avais marre, quoi. Et donc, il s'est resté mon meilleur ami jusqu'à sa mort. Il meurt d'un cancer il y a pas mal d'années maintenant. Et tous mes livres d'enfance sont à 40 mètres de fond.
Comment ça se fait qu'ils aient continué sans vous, vos livres?
Ah, bah parce que j'y allais le rejoindre régulièrement, parce que j'avais encore de l'espoir. Jusqu'à ce que j'ai rencontré Patrick Vazot. Voilà.
Ah, c'est dur, ça.
Et donc, mais il m'en restait quand même un peu. Sinon, évidemment, il y a des livres en anglais.
Alors, c'est quoi ces livres-là?
Là, c'est beaucoup de hollandais, quand même. Là-haut, c'est... Ouais, c'est mélange. Vous savez, on n'a pas vraiment mis les choses en l'ordre. Il y a du Stephen King, voilà.
Oui.
Moi, j'ai une période de science-fiction très longue dans ma vie, qui a vraiment... Je ne regrette pas, parce que beaucoup de choses que j'ai lues dans le livre de science-fiction sont arrivées, même des choses graves et des choses horribles. Oui. Heureusement, pas tout ce que raconte Stephen King, parce que c'est quand même un chef des horreurs.
C'est quoi votre préféré de Stephen King? J'adore aussi, c'est pour ça.
Oh, bah, le tour, l'histoire du tour. Là.
La tour sombre, qui a été adaptée en série télé d'ailleurs récemment.
C'est raté.
Vous avez regardé?
Non, j'ai vu un extrait, je dis c'est raté. Il y a un livre de science-fiction qui s'appelle Dune. C'est un livre de Frank Herbert. Oui, vous connaissez?
Bien sûr.
Fantastique. Fantastique, ils ont essayé de le faire rater aussi, on ne peut pas. Moi, c'est marrant parce que quand mon père est mort, vous savez, à le moment de la séance après l'enterrement, il y a un vieux monsieur qui avait des larmes aux yeux et j'ai eu cette phrase qui sort de Dune, il donne de l'eau aux morts. parce que l'eau était tellement rare, vous savez, si vous vous souvenez. Donc donner de l'eau, il ne fallait surtout pas, parce qu'on en avait peu, donc on ne pouvait même pas pleurer. Quoi. Et c'est pour ça, à ce moment-là, j'ai dit, merde, tu penses à Dune pendant que ce pauvre homme pleure pour ton papa.
Mais les livres sont avec vous sans arrêt, en fait. Ah, vous ouais. regardez le monde par les livres, finalement.
Heureusement. Hein. J'ai, vers la cinquantaine, ce qui est quand même déjà il y a plus de 20 ans, j'ai compris que... tout ce qu'on fait, c'est un peu pour oublier justement que la vie est une maladie sexuellement transmissible. Et donc, tant qu'on n'y pense pas trop, on est bien. Ça peut être un bon repas, un joli voyage. Mais pour, faire la cuisine dans mon corps, j'adore faire. Mais avant tout, lire, quoi. On est ailleurs quand on lit. Et donc, on ne peut pas être vraiment malheureux quand on est au bord de sa piscine avec un petit peu de soleil et un bon bouquin, quoi.
Mais vu ce que vous venez de me dire, les romans, ils ne vous servent pas seulement à vous divertir. Ils vous aident à vivre d'une certaine manière.
Donc, c'est déviatif.
Comment,
hein.
comment
mais parce que j'y apprends des choses, parce qu'ils m'aident à vivre. C'est pour ça, c'est ça, un viatique, quoi. Ils me permettent de voyager sans prendre l'avion et passer par la douane. Et puis, ils m'enrichissent, quoi. Je pense que c'est ça.
Vous avez encore des livres anciens, là, des petits formats. Vous aimez aussi le... Vous êtes un fétichiste du livre. Vous aimez avoir des éditions originales, des choses comme ça.
Vous avez vu avec Paul d'Ivoire, oui, j'aime bien ça. Puis l'odeur des livres, quoi. Maintenant, je ne suis pas contre prendre un Kindle pour prendre un grand livre dans un train et pas avoir des tonnes de livres avec soi. Hein, c'est pratique. Mais rien vaut quand même l'odeur d'un vieux livre, quoi. L'odeur du page un peu moisi. Ça va avec mon âge, je suis moi-même un peu moisi sur moi.
Allez, attendez, c'est quoi cette pièce quand même là? Parce que moi je suis un peu, voilà, je suis curieux là, je suis chez Dave, dans une ce qui a l'air d'être votre bureau, c'est là que
ah,
vous composez?
Non, ça c'est la pièce de mon compagnon, et c'est là où il écrit mes chansons.
D'accord.
Toutes les chansons de l'album qui vient de sortir, sauf une qui a des Renaud, ce qui m'a fait très très plaisir de chanter un texte de Renaud, parce que généralement il le chante lui-même. Et il m'en a donné une texte sur lequel on a fait mettre la musique par mon réalisateur Thierry Geoffroy. Sinon, les paroles, depuis 1974, sont de Patrick Vazot. Et lui a un grand bureau à lui. Moi, j'ai un petit coin ordinateur dans la chambre. Parce que moi, je ne travaille pas là. Moi, je travaille sur la scène. C'est pas pareil.
La voix est libre. Nicolas Caro.
Donc là, on est au rez-de-chaussée.
Ouais.
Il y a deux guitares et il y a encore beaucoup de livres, de part et d'autre d'une belle cheminée.
Ouais.
C'est quoi les livres qui sont ici?
Il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est ça qui est terrible. Il y a des livres là aussi, c'est assez désordonné. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, c'est-à-dire que moi, j'ai fait le lycée classique, comme on dit en France. Donc, c'est-à-dire que latin, grec, beaucoup de langues, quand même assez littéraire. J'étais rédacteur en chef du journal, donc j'écrivais. Donc, j'ai toujours été, comme vous disiez à juste titre, attiré par les mots, quoi. Une chanson de Renaud sur son ancien album, Le Mot. Très jolie chanson.
Et vous n'écrivez pas? Vous n'avez pas un roman dans le tiroir qui...
J'ai écrit 3 biographies, ce qui est quand même très prétentieux. 3 autobiographies.
Mais de la fiction,
qu'une
de la fiction.
Ça m'est déjà venu. J'écrivais pas mal d'histoires courtes quand j'étais plus jeune. Mais la chanson a poussé ça quand même, beaucoup. Ouais. Non, je pense pas. En plus, je ne pense pas avoir la discipline, c'est une question de discipline souvent, hein, la discipline nécessaire pour te mettre devant une feuille blanche le matin et écrire 2-3 heures. Avec les autobiographies, j'y suis arrivé parce que le sujet était tellement passionnant, mais modeste.
Qu'est-ce que c'est que ces livres bleus là, que je vois sous la télé?
Ça, c'est sur les livres de Van Gogh.
Ah.
Parce que Van Gogh...
Triote.
J'ai encore des Français qui pensent que Van Gogh était français.
Oui,
ça m'énerve un peu. Et à un moment, j'ai failli jouer Théo Van Gogh dans un film Maurice Pialla. C'était assez incroyable. Ça n'a pas duré très longtemps. À un moment, Daniel Auteuil, qui fait partie de mes plus vieux amis et mes bons amis, et Daniel était pressenti par Pialla pour jouer Vincent Van Gogh. Et c'est Pialla lui-même, Maurice Pialla lui-même, qui a dit à Daniel... Je sais que votre ami Dave est hollandais et ça m'intéresserait qu'il joue Théo. Et Pialla avait toujours une forme d'admiration assez simpliste pour les chanteurs. Ça l'épatait, les chanteurs. Et on a fait un dîner ensemble avec lui, sa compagne, Daniel et moi. Et ça a fini avec « Bon, ben, on se voit bientôt pour les essayages de costumes ». On est parti dans la rue avec Daniel. Du restaurant. Je nous vois courir dans la rue un peu comme un pub pour une marque de cigarettes, main dans la main, hurlant de joie. On va travailler ensemble de nouveau, parce qu'on avait fait ensemble quand même 2 ans de théâtre. et on prend ma voiture, je repasse dans une petite rue, Pierre là est au bord de la route, il nous fait signe de nous arrêter, je baisse la fenêtre, il me dit finalement non. Donc ça durait 10 minutes quoi.
Sans autre explication.
Sans autre explication, c'était bien lui. Et après, avec Daniel, lui a commencé même à repeindre, à apprendre à peindre, etc. Et lui aussi s'est fait envoyer promener. C'est Jacques Dutronc qui a fait le film. Donc quand même un chanteur. Mais Van Gogh de Piala, c'est Jacques Dutronc. Voilà, c'est intéressant.
Dommage.
Ouais. Mais sinon, Van Gogh, évidemment, je le cite souvent parce que quand les jeunes gens me demandent, aux vieux chanteurs que je suis, comment il faut faire, je dis 3 lettres. C'est TTC, travail, talent, chance. Et un jour, j'ai vu une émission, un documentaire sur Maurice Chevalier qui disait « Faut avant tout avoir de la chance ». Et c'est lui qui a raison. La chance est la chose la plus importante. Que ce soit un chanteur, que ce soit pour ouvrir un garage ou un restaurant, si tu n'as pas de chance, tu n'y arrives à rien. Et Van Gogh avait du talent, il a beaucoup travaillé et il n'a pas vendu un tableau de sa vie.
C'est terrible,
je
ça.
Je pense que son frère, Théo, n'était pas le meilleur manager du monde non plus. Ce n'était pas un bon agent, peut-être.
Bon, ben merci beaucoup, Dave, pour cette belle visite, pleine de livres et d'histoires. Merci beaucoup, Dave.
À bientôt.
Europe 1.
De retour en studio et merci à Fabien Duchesne pour la prise de son. Restez là, on continue d'écouter le meilleur de La Voix et Livres et les meilleurs de l'émission, ben ce sont les libraires. Ils ont encore 2 livres géniaux à vous proposer. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix et Livres.
Retour dans La Voix et Livre avec l'équipe des libraires de l'émission. Ils défendent le livre au quotidien grâce à eux. Les trottoirs sont bordés de romans. Aujourd'hui, c'est la librairie L'Écriture à Vaucresson qui nous fournit les livres avec leurs deux libraires, Anne-Sophie Rouvelou et Anna Schulman. Salut les libraires.
Salut.
On commence par vous, Anne-Sophie. Quel livre avez-vous lu pour nous aujourd'hui ?
Alors, j'ai lu le super La crête des damnés de Joe Menot qui est paru chez Agulhos.
La crête des damnés, ça fait peur un peu.
Non, mais faut pas. La crête, c'est la crête des punks en fait. Donc, faut pas avoir peur. C'est pas un roman d'horreur ou quoi. C'est plutôt l'inverse en fait. C'est un roman qui se passe dans les années 90 à Chicago et on fait la connaissance du narrateur qui s'appelle Brian. Brian, c'est l'ado par excellence, c'est-à-dire qu'il s'ennuie en cours, qu'il comprend rien aux adultes et qu'il y a des amours compliqués. Parce qu'en fait, Brian, il est amoureux d'une fille, une de ses amies qui s'appelle Gretchen, qui est absolument flamboyante. Donc grâce à elle, par exemple, dans le roman, vous allez savoir comment vous pouvez vous teindre les cheveux en rose d'une manière superbe.
Ça peut être utile.
Ouais, ça peut être utile quand on est punk. Et en fait, Gretchen aussi, je dis qu'elle est flamboyante parce qu'elle a un petit peu des facilités pour casser la gueule à tous ceux qui lui cherchent des noises. Voilà. D'accord. Sauf que Gretchen, elle a du caractère. Et malheureusement, elle n'est pas amoureuse de Brian. Elle est plutôt amoureuse d'un mec qui s'appelle Tony, qui est un crétin doublé d'un raciste.
C'est
voilà.
Toujours comme ça.
Ouais, pas de bol pour Brian. Par contre, ce qui est bien, c'est que Brian, il a une constante, entre guillemets, c'est la musique. C'est-à-dire que Brian, et ça c'est génial, il écoute du bon gros rock. Quand je dis du bon gros rock, il écoute par exemple AC/DC, il écoute, il y a les Clash aussi, il y a Van Halen, il y a Metallica. Voilà, que du bon gros son. Et en fait, donc dans le roman, vous avez des playlists parce qu'il adore, voilà, il adore penser au groupe et aux morceaux qu'il adore. Et ce qui est sympa aussi dans le roman, c'est que la musique, du coup, là, le punk, ça devient... Enfin, le punk, c'est plutôt du rock. Après, voilà, vous ferez votre choix pour le terme. C'est ce qui permet un petit peu de faire le lien entre tout le monde parce que je ne sais pas si tu faisais ça, Nicolas, à un moment, mais tout le monde fait des compilations sur cassette audio.
Ah, bah, des mixtapes.
Voilà, des mixtapes. Donc, plus sérieusement aussi, la musique, c'est aussi un petit peu une forme de contestation. C'est-à-dire que, par exemple, Brian, je vous ai dit qu'il vivait à Chicago, il vit dans un quartier où bah, tout le monde est blanc, tout est uniformisé, ils sont tous... plus ou moins raciste, et c'est ce qui lui permet aussi voilà, de se rebeller un petit peu. Donc La crête des damnés, comme ça, c'est un formidable roman sur l'adolescence que je conseille à tout le monde, ado ou pas, punk ou pas, et c'est vraiment absolument drôle et touchant.
Anna Schulman, on n'est pas très loin, c'est une enquête familiale, vous.
Oui, alors, mais on change de playlist. En revanche, on est plutôt dans la musique tango des années 30 espagnole. Donc moi, je vous parle d'un premier roman, un récit plutôt, en fait, effectivement, d'une enquête familiale qui s'appelle « Histoire d'Adrian Silencio » d'Eleonore Puria aux éditions Lattès. Donc c'est l'histoire de Cléo qui nous raconte cette histoire. Elle sent depuis toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa famille en vrac. Je cite « alcoolisme, dépression, paranoïa, etc. » Une violence toujours rentrée, une tristesse un peu inexpliquée. Et elle se dit que son grand-père, donc le fameux Adrián Silencio, qui est donc un réfugié espagnol arrivé en France pour fuir le franquisme, évidemment, dans les années 30, c'est peut-être la clé de ça, de ce mystère. Donc elle cherche, elle questionne un peu les gens de sa famille, mais tout le monde lui répond « bon, rien à dire, rien de spécial, oui, ton grand-père, bon, d'accord ». Elle se sent peu à peu rattrapée par les démons familiaux, elle décide elle aussi de partir, de s'expatrier aux États-Unis. Et à son départ, elle décide d'emmener avec elle un vieux cartable que son grand-père avait trouvé dans le métro, rempli de documents, de photos, qui a survécu en fait aux multiples déménagements et qui est resté un peu tel quel, mais qui n'a jamais été ouvert. Donc c'est dans son exil à elle qu'elle va se plonger dans l'histoire de cet autre exilé, donc son grand-père, quelqu'un de sa famille, qui en fuyant la dictature a laissé derrière lui plus que son pays, carrément une autre vie. Donc cette histoire, c'est une histoire banale finalement, parce que c'est celle d'une femme d'aujourd'hui qui part à la recherche de ses racines, de la vie des siens, mais c'est justement parce qu'elle est banale, qu'elle est belle, qu'elle est unique, elle est profondément honnête. Donc on est vraiment avec la narratrice, on est avec elle dans ses doutes, ses questionnements, ses recherches, elle plonge dans le cartable, on est parfois même dans ses rêves, elle nous raconte tout ça. Donc c'est une vraie enquête presque policière, parce qu'il y a des personnages comme ça qui apparaissent un peu au détour des pages, des rebondissements, des coups de théâtre, des photos aussi qui sont intégrées dans le livre. Et c'est une belle histoire de vie, un gros coup de cœur qui m'a beaucoup émue.
Mais c'est triste ou c'est optimiste?
Non, c'est plutôt optimiste, c'est la vie, c'est la vie.
D'accord, vous nous rappelez le titre ?
Histoire d'Adrián Silencio, d'Éléonore Pouria aux éditions Lattès.
Et on va faire plaisir à Anne-Sophie pour terminer. Voilà, CDC Highway to Hell pour vous faire plaisir, Anne-Sophie, pour votre livre dont vous nous rappelez le titre.
La crête des damnés de Joe Menos, c'est paru chez Agudo.
Un bouquin rock'n'roll. Merci beaucoup les libraires et on passe au rayon jeunesse maintenant, on va retrouver Victor Dolande, à tout de suite.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve Victor Dolande pour son conseil littérature jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous nous conseillez un livre intitulé « Le grand voyage en abécédaire » de Christian Demilly.
Oui, alors déjà, il faut que je vous fasse une petite précision, pour notamment pour les jeunes parents ou ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un abécédaire. On a le droit.
On a le droit, Nicolas. On a tous été enfants avec des abécédaires.
C'est pas faux. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, ce sont donc ces livres, généralement, qu'on lit aux enfants à partir de... un an et demi, deux ans, pour leur apprendre leur premier mot. À chaque page, une lettre de l'alphabet, avec des mots qui commencent par cette lettre, bien évidemment. Et alors ici, ce n'est pas un abécédaire classique, puisqu'il est destiné pour les 4-5 ans.
C'est-à-dire, quelle est la différence avec un abécédaire classique?
Alors en fait, il va reprendre vraiment tous les codes classiques de l'abécédaire, une page par lettre de l'alphabet, sauf qu'il peut aussi se lire, et c'est là la différence, comme un album classique. Il y a donc une histoire, d'accord, deux garçons se préparent à vivre une grande aventure. On les suit des préparatifs, le petit déjeuner, jusqu'au bout de leur voyage. Laetitia va vous en lire un petit extrait.
Mais le temps passe, hélas, et le sommeil engourdit tout le monde. À force de fatigue, dans le frêle esquif, on s'est endormi. Quelle erreur ! Les flots se déchaînent et bientôt le courant emporte la barque. On se réveille d'un coup, on se frotte les yeux. Mais non, ce n'est pas une farce ! Au loin, on distingue un fanion qui flotte et où l'on peut lire « Attention écueil ». Trop tard pour réagir, le canot fond sur un rocher et sa coque se fendit. L'embarcation, soudain, devient incontrôlable et se rapproche dangereusement du fleuve.
Les mots de la page E sont en bleu pour les repérer et vous aurez aussi entendu des mots... quand même un peu plus compliqué, je ne sais pas si vous l'avez repéré, Nicolas, esquif, écueil. C'était une volonté de l'auteur, enfin, quand je dis compliqué, compliqué pour des enfants de 4-5 ans, on s'entend, mais c'était vraiment une volonté de l'auteur, Christian Demilly, ne pas céder à la facilité des mots trop simples pour les 4-5 ans. Au contraire, avec ce texte, ils vont apprendre plein de nouveaux termes, de synonymes. Alors, c'est un avantage pour eux. C'est en revanche un peu plus pénible pour les parents, car votre lecture sera entre-découpée de questions permanentes du genre « Mais ça veut dire quoi, ça ? Et ça, papa ?» Ça veut dire quoi ?
Mais c'est ça le contrat quand on lit un livre.
Exactement. Enfin, un mot sur ce livre, objet d'illustration d'Alain Pilon. Ses gros traits presque naïfs donnent des allures un peu rétro à ce superbe voyage. On a l'impression vraiment de vivre les aventures de deux petits garçons au début des années 80. D'ailleurs, petit clin d'œil avec un brin de nostalgie, les grands-parents adoreront également cet album.
C'est parfait, c'est en lisant qu'on apprend à lire. Et je rappelle le titre, Le Grand Voyage en abécédaire de Christian Demilly, illustré par Alain Pilon. C'est édité par Grasset Jeunesse. Merci Victor.
À la semaine prochaine, Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation. Et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Bonne année à tous.
Europe 1.